Cette table ronde va être animée par Monsieur Benoît Éperon et je lui cède donc immédiatement la parole.
Merci beaucoup. Donc, avant de démarrer, de donner la parole aux différents participants de cette table ronde pour amorcer la dernière ligne droite de ces fructueuses deux journées de discussion et de colloque. Je voudrais commencer par un message publicitaire qu'on m'a demandé de faire passer. Vous trouverez sur la table à la table des inscriptions un petit document sur l'appel à communication pour le colloque ISCO qui se tiendra en juin à Lille et qui portera sur stabilité et dynamisme dans l'organisation des connaissances. Sujet qui pourra constituer une introduction ou en tout cas une thématique de recherche intéressante pour le dialogue qui nous préoccupe aujourd'hui entre bibliothèque et sciences de l'information. Donc, je voudrais la thématique de cette table ronde est de présenter un peu, d'observer les projets de recherche comme espace de dialogue entre les bibliothèques et les sciences de l'information. La question un petit peu que j'ai essayé de poser aux différents intervenants, c'est de voir comment les projets de recherche se positionnent par rapport à ce dialogue entre bibliothèques et sciences de l'information. Est-ce qu'ils sont la résultante d'un dialogue initié auparavant, d'une rencontre entre des chercheurs et des bibliothécaires pour leur père et qui donne comme résultat l'émergence de projets de recherche, ou est-ce qu'on est dans une logique où on pourrait presque utiliser les projets de recherche comme outil ou prétexte, peut-être, à un renouveau du dialogue entre bibliothèques et chercheurs dans les sciences de l'information. La question se pose donc de savoir dans quelles conditions, avec quels obstacles et avec quel succès peut-être pas échec, mais succès plus limité, ces différentes initiatives ont pu être tentées. J'aurai l'occasion de réagir ensuite. Je pense que pour rester dans la droite ligne, il me semble, du mot-clé qui a animé ces deux journées, qui était le dialogue, la synthèse des différentes présentations laissera une place, je l'espère, intéressante au dialogue avec la salle et au sein de la table. Je cède donc la parole en premier lieu à M. Clément Arsenault, professeur agrégé et directeur de l'EPSI depuis juin 2010. Merci.
Merci beaucoup pour cette présentation et merci à tous les organisateurs du colloque et à l'ENSIB pour nous recevoir dans ces merveilleux locaux. Alors, je suis très content d'être ici cet après-midi. J'ai écrit mon texte avant la tenue du colloque, bien sûr, et malheureusement, je passe en dernier. Donc, en fait, ce que je veux dire, peut-être déjà tout était dit, ce qui est peut-être un peu décevant, mais quand même un peu réconfortant également, puisqu'on dit que les grands esprits se rencontrent. Donc, si on a pensé aux mêmes choses, ça veut peut-être dire quelque chose. Alors, je vais lire mon texte qui est disponible également sur les tables, si vous l'avez pris. Alors, je vais parler tout d'abord de la discipline et de la profession. Donc, je dirais qu'il existe depuis toujours dans notre domaine, comme dans bien d'autres domaines, assurément, une tension palpable entre la discipline académique, les sciences de l'information, et les diverses professions qui composent ce domaine. Donc, cette tension s'exprime très souvent même au moment même de la formation initiale, en classe ou lors de l'élaboration des programmes d'enseignement, alors qu'on doit impérativement s'assurer d'établir un bon équilibre entre la théorie et la pratique. Les étudiants, souvent trop avides de connaissances pratiques et anxieux d'entrer sur le marché du travail, trouvent en général les enseignements théoriques peu utiles. Il est vrai que les sciences d'information se sont construites à partir de l'élaboration de savoirs professionnels concrets qui se sont mis en place au fil du temps. De nos jours, cette construction, loin d'être terminée, s'accélère. Mais les enseignants qui ont un peu de vécu et d'expérience savent qu'il est primordial d'insister sur les concepts théoriques qui sous-tendent ces savoirs pratiques. Avec la diversification des milieux d'application de notre science, avec les avancées technologiques fulgurantes que l'on a connues et celles que l'on connaîtra dans les prochaines années, avec le changement de paradigme qui entraîne une nouvelle focalisation des savoirs des systèmes vers l'usager, l'utilisateur, avec l'impact du numérique, Nous avons plus que jamais besoin d'assises théoriques, stables, qui traverseront le temps et qui seront applicables dans le futur. D'autant que dans notre domaine, ce futur est difficile à prédire, même à court terme. Les programmes de formation dans notre domaine sont pour la plupart essentiellement des programmes professionnels, grandement axés sur la pratique. Or, comme on le sait, la pratique évolue et change rapidement. Les questions fondamentales restent sensiblement les mêmes, mais les réponses concrètes à ces questions changent et évoluent avec le temps. On doit ainsi conserver les bases théoriques qui, elles, traversent le temps et permettent de s'adapter à diverses situations et environnements. Les bases théoriques permettront aux diplômés de s'adapter à divers milieux, aux changements, à l'évolution et aux bouleversements causés par le numérique, mais dont il est difficile de prévoir l'évolution même à court terme. Ceci ne signifie pas pour autant de délaisser les aspects pratiques de la formation, car il importe de bien faire comprendre les liens entre la théorie et la pratique et d'établir des connexions claires entre les deux. Car si la théorie permet de rationaliser l'apprentissage, il n'en est pas moins important de présenter les aspects pratiques qui sont non seulement intéressants en soi, mais permettent également de faire avancer notre science. Nous devons toujours insister sur les fondements de la discipline afin que les diplômés d'aujourd'hui puissent évoluer dans le monde de demain. Bien qu'il soit difficile d'établir ce qui constitue au juste les fondements de la discipline, dû en particulier, on en a discuté, sur les difficultés de définir et de délimiter la discipline elle-même, on remarque qu'au cours des 20 à 30 dernières années, ces fondements ont peu changé et que nous avons une plus grande facilité à définir les éléments essentiels d'une formation de base dans notre domaine que de s'entendre sur ce que sont exactement les sciences de l'information. On identifiait auparavant comme notion de base la connaissance des sources d'information, les structures organisationnelles d'information, des langages et classifications documentaires, des langages de recherche. Aujourd'hui, ces bases sont encore valides, mais en recentrant plus sur la notion de service et sur l'utilisateur du fait de son implication plus directe au sein des systèmes informationnels, tant en recherche d'information qu'en diffusion ou qu'en organisation des ressources documentaires. Les bibliothèques ne fonctionnent plus en monopole ou en vase clos comme auparavant. Le paradigme informationnel se déplace de l'approche système vers l'approche utilisateur. Je reprends un passage écrit par Baden en 2009 dans l'introduction d'un ouvrage collectif sur les sciences de l'information. Alors, il disait que si on remonte dans la littérature des actes de congrès de cette époque, donc on parle ici de la fin des années 70, début des années 80, on retrouve entre autres des présentations questionnant les mérites de la recherche en ligne versus ceux de la recherche manuelle d'index analytique. Des articles d'avant-garde à l'époque indiquant qu'il faudra probablement un jour former les usagers à la recherche d'informations en ligne. Et des énoncés visionnaires sur la folle possibilité que, dans un futur non si lointain, toutes les bibliothèques seraient un jour équipées d'un ordinateur. Alors ça, c'est il y a à peine 30 ans. Il est difficile aujourd'hui de se rendre compte qu'à l'époque, ces questions étaient des préoccupations courantes dont on débattait sérieusement dans les milieux académiques. On voit bien que le progrès et l'évolution en ce qui touche le numérique a été passablement rapide. Aujourd'hui, l'environnement est loin de se stabiliser et tout cela s'accélère et il est impératif de constamment s'adapter. Rappelons-nous qu'à l'époque de ces premiers bouleversements, bon nombre de programmes de formation, n'ayant pas su s'adapter adéquatement à ces nouveaux paradigmes, ont dû fermer leurs portes. Andrew Dillon en parlait hier. On rapporte pour l'Amérique du Nord la fermeture de 16 programmes professionnels entre 1978 et 1992. Les programmes de formation doivent offrir un ensemble cohérent de cours et doivent couvrir un ensemble distinctif de connaissances disciplinaires, même si les sciences de l'information s'apparentent à beaucoup d'autres disciplines. Les programmes doivent proposer une bonne balance entre des cours généraux et spécialisés. La formation doit assurer que les diplômés auront une connaissance étendue du domaine, tout en leur permettant de développer une expertise plus spécifique sur une ou deux thématiques de leur choix. Maintenant, je parle des initiatives de recherche. Alors, cette vision syncrétique de la discipline et de la profession est aussi passablement ardue à réaliser sur le plan de la recherche. Nous ne pouvons que déplorer, malheureusement, l'existence d'un fossé entre chercheurs et praticiens, les uns accusant souvent les autres d'être incapables de valoriser la recherche et inversement les autres accusant les uns de développer des programmes de recherche ayant peu ou pas de bénéfices concrets pour l'avancement de la profession. Nombre d'articles dans la littérature scientifique et professionnelle abordent ce sujet de controverse et abondent dans ce sens. Lorsqu'on participe aux rencontres scientifiques et aux réunions d'associations professionnelles, force est de constater que les professionnels d'information fréquentent très peu les congrès académiques. Sont-ils insensibles à la recherche présentée lors de ces congrès? On retrouve toutefois les bibliothécaires, archivistes, veilleurs, documentalistes en grand nombre dans les congrès d'associations professionnelles lors desquels des projets de recherche sont présentés. Doit-on conclure qu'ils ne sont intéressés que par les applications pratiques de la recherche? Les congrès académiques sont-ils intimidants, voire hostiles envers les professionnels? Je pense que c'est des questions qu'on doit se poser. En contrepartie, les chercheurs académiques seront probablement un peu plus enclins à participer à des colloques organisés par des associations professionnelles. Est-ce simplement par obligation ou plutôt par désir de diffuser les résultats de leur recherche sous une forme vulgarisée? Il est certainement regrettable de constater qu'un certain nombre de chercheurs académiques considèrent ces activités comme futiles et de moindre importance. Pour établir un meilleur dialogue entre les deux parties, il est primordial de supporter la participation des uns et des autres lors de ces rencontres. Un élément qui me semble primordial à réaliser si on souhaite stimuler la recherche dans notre domaine est l'aménagement de conditions de travail qui permettent aux professionnels de s'engager dans des projets de recherche à même l'exercice de leurs fonctions. On en a également parlé aujourd'hui. Il est utopique de penser que les chercheurs universitaires parviendront seuls à répondre aux besoins des milieux. Trop souvent, les professionnels sous-estiment leurs capacités en recherche, alors qu'il suffit souvent de leur fournir des opportunités et de leur proposer des programmes de recherche pertinents pour qu'ils s'y engagent avec succès. Les cours de méthode de recherche font maintenant partie intégrante des curriculums d'études dans la grande majorité des programmes de formation professionnelle. Nous remarquons toutefois chez nous que peu d'étudiants choisissent les profils de spécialisation en recherche qui sont dans nos programmes. Est-ce dû à la perception que ces notions sont peu valorisées par les milieux ou qu'elles ne seront pas considérées lors des entretiens d'embauche? On remarque en effet que peu d'offres d'emploi ont des exigences en matière de capacité et d'expérience en recherche et très peu de milieux offrent également des expériences de stage de formation en recherche. Serait-il opportun de développer ce genre de programme? Aux États-Unis et au Canada anglais, les bibliothécaires, dans certains milieux académiques, jouissent du statut de professeur, faculties, dont parlait hier France Boutillier. Ce qui suppose qu'ils doivent eux aussi effectuer de la recherche et publier dans des revues savantes s'ils souhaitent avoir leur permanence ou obtenir une promotion. Est-ce un modèle qu'il serait souhaitable d'adopter et d'implanter dans les milieux francophones? Les études sur ce phénomène indique qu'en général, ce modèle tend à renforcer les liens entre les bibliothécaires et les chercheurs universitaires, augmentant ainsi les opportunités de collaborer sur des projets de recherche. Certaines études avancent que les impératifs de production imposés par ce modèle ont des impacts positifs, tant sur la qualité que sur la quantité des publications scientifiques. D'autres études, par contre, sont beaucoup moins enthousiastes sur ce point et certains chercheurs académiques s'opposent farouchement à ce modèle. Il est clair du moins que pour les professionnels ayant ce statut, les chances d'obtenir du financement et du temps pour participer à des ateliers de formation et à des événements à caractère académique sont plus élevées. Les travaux de recherche entrepris par les bibliothécaires sont en général plus adaptés à des questions précises concernant le milieu dans lequel ils travaillent. Les académiciens ont par ailleurs peu de chances de faire subventionner leurs projets de recherche si ceux-ci se limitent à une question qui ne touche qu'un milieu en particulier et dont la portée est limitée. Ceci dit, une récente étude démontre que la recherche non subventionnée, effectuée dans les milieux professionnels de notre domaine, représente une grande proportion des publications scientifiques. L'étude de Zhao en 2010 indique qu'en général, les études provenant de programmes non subventionnés ont un facteur d'impact inférieur aux études subventionnées. Mais, par contre, il n'en demeure pas moins que ces études semblent jouer un rôle important pour l'avancement de la recherche fondamentale en permettant d'élargir le spectre du type d'études effectuées dans notre domaine. Maintenant, dialogue bibliothèque-chercheur. Donc, je reviens un peu au thème proposé aujourd'hui pour la table ronde. Donc, je crois que c'est étroitement lié à la question, est-il possible de construire des programmes de recherche qui permettent de concilier les intérêts de tout un chacun? Bibliothèque ou autre institution documentaire, chercheur universitaire ou laboratoire de recherche, institution d'enseignement, organisme subventionnaire. Il est important de reconnaître les difficultés posées par cette tâche. Les besoins des institutions sont divers et varient entre types d'institutions. Une bibliothèque nationale aura des préoccupations et des besoins sur les questions touchant, par exemple, le traitement documentaire normalisé, la sauvegarde et la diffusion du patrimoine documentaire national, la numérisation et la préservation des documents. Ces préoccupations ne seront pas nécessairement les mêmes pour les bibliothèques publiques, qui auront, par exemple, des questionnements plus centrés sur le rôle de la bibliothèque et de son impact dans la société du savoir. Les besoins en milieu académique seront également différents. Il importe premièrement que les institutions documentaires fassent connaître leurs besoins. Et on en a eu quelques beaux exemples aujourd'hui. Nous observons avec enthousiasme chez nous l'émergence d'un dialogue entre les milieux professionnels et académiques, tant avec les bibliothèques et les archives nationales qu'avec les bibliothèques académiques ou encore les regroupements des bibliothèques publiques. Pour que ces initiatives voient le jour, il est primordial de considérer globalement la question afin que tous y trouvent leur compte. Les chercheurs universitaires ont le devoir de développer la recherche fondamentale, car, comme nous l'exprimions dans notre introduction, il est primordial de consolider les assises théoriques de la discipline. Les organismes subventionnaires gouvernementaux ont la responsabilité de subventionner des projets qui auront des retombées à large portée et des résultats qui pourront être repris, interprétés et applicables et qui seront applicables dans une grande variété de contextes afin d'en faire bénéficier le plus grand nombre. Les partenariats sont certes possibles, mais par exemple par le biais d'études de cas ou de recherche-action, qui permet de réaliser des expériences réelles dans des groupes sociaux naturels. L'idée générale de ces méthodes est que lors des expérimentations, la recherche et l'action peuvent être réalisées de concert, permettant à la fois de répondre aux préoccupations souvent plus terre-à-terre du milieu et d'alimenter les bases de connaissances en vue de l'avancement théorique de notre science.
Merci beaucoup pour cette intervention. Ce que je vous propose, c'est que s'il y a des questions brûlantes ou des réactions immédiates à cette présentation, on prenne le temps du dialogue et sinon qu'on passe à la présentation suivante. Non ? On enchaîne ? Bon. Donc, moi, j'aurais plusieurs questions, mais après. Je souhaite passer la parole maintenant à Madame Hélène Ménard, qui est professeure adjointe à l'Université McGill, pour un point de vue d'enseignant-chercheur en sciences de l'information et des bibliothèques.
Oui, le micro est allumé. C'est bon. En fait, j'aurais le goût de commencer par une question. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des bibliothécaires dans la salle? Pouvez-vous vous manifester? D'accord. Bon, parce que je me suis posé la question pendant les deux jours et puis, bon, j'ai enfin la réponse. Et puis, est-ce qu'il y a des chercheurs dans la salle? Bon, mais je vous présente à chacun. Maintenant que les présentations sont faites, on peut amorcer le dialogue. C'est déjà un bon début. Donc, je vais vous parler un peu de moi avant de vous lire une partie de mon texte. Je vous lirai pas tout mon texte, en espérant que ce seront peut-être un jour publiés. Je vais vous parler d'une réalité nord-américaine. J'avoue que j'ai appris beaucoup pendant les deux dernières journées. Je suis un peu au courant de ce qui se passe en Europe, mais peut-être pas autant. Là, j'ai vraiment appris pendant les deux jours. Donc, je ne vais pas vous parler du contexte français ou européen, je vais vous parler du contexte nord-américain. Donc, je suis professeure adjointe à l'Université McGill et malgré mon grand âge et mes cheveux blancs, je commence à peine ma carrière de professeure et de chercheure. Donc, je n'ai pas encore terminé ma deuxième année. Donc, pour comment ça fonctionne au Canada et aux États-Unis, quand on a un emploi de professeur-chercheur, on a d'abord un premier contrat de 3 ans Et puis, on a une évaluation qui se fait après les trois premières années. Cette évaluation-là est basée sur trois choses. Madame Boutier l'a précisé hier. C'est sur la performance en enseignement, en recherche et aussi en service. Le service, c'est tout ce qu'on fait qui n'est pas la recherche et l'enseignement. Quand on est adjoint, on n'a pas le choix de dire... On dit tout le temps oui à tout. Donc, une fois qu'on a terminé notre premier contrat, si on a la chance d'être bien évalué, on se fait offrir un deuxième contrat de 3 ans. Et une fois encore après le deuxième contrat de 3 ans, on se fait évaluer. Puis là, on devient ou pas permanent. C'est soit ils nous montrent la porte ou on a un emploi permanent à l'université. Donc, encore une fois, la permanence est évaluée selon trois choses, l'enseignement, la recherche et le service. Mais évidemment, il y a un vice caché là-dedans, c'est que c'est surtout la recherche qui est importante. Et je crois que c'est pas différent, soit au Canada ou aux États-Unis, probablement ici aussi. Donc, la recherche est vraiment l'endroit où on doit concentrer nos énergies. Et en fait, quand on parle de recherche, on parle surtout en termes de dollars. C'est ce qu'on rapporte à l'université qui est surtout bien vu dans notre dossier pour avoir notre permanence. Donc, puis aussi, quand on réussit à avoir des subventions de recherche, on réussit aussi à attirer des étudiants au doctorat. Et quand on a des étudiants au doctorat, on réussit à obtenir aussi plus de subventions de recherche. Donc, il faut commencer quelque part, mais enfin, les deux vont de pair. Donc, pour avoir ces fameuses subventions de recherche, c'est surtout l'argent qu'on demande les subventions au gouvernement, soit au niveau provincial ou fédéral. Et puis, il n'y a plus autant d'argent qu'il y en avait il y a quelques années. Alors, ça me fait toujours... quand je vois les chiffres il y a 7 ans, il y a 14 ans, je me dis, c'était le bon temps, parce que ça semblait plus facile, enfin... par rapport à ce que je vis en ce moment, d'obtenir des fonds pour faire de la recherche. Alors, il faut être très minutieux quand on fait nos demandes de subvention. On n'a pas beaucoup de chances de faire bonne impression. Et puis, si on veut vraiment réussir à avoir de l'argent pour faire la recherche, il faut pas se tromper dans le choix des mots. Et malheureusement, le mot « bibliothèque » n'est pas un mot qui doit être inclus dans les demandes de subvention parce que c'est pas très vendeur. Ça, je crois que c'est M. Savard qui l'a spécifié. Donc, c'est en grosse partie pourquoi les gens ne touchent pas vraiment au domaine des bibliothèques. En fait, comme je vous disais au début, c'est le contexte nord-américain, c'est peut-être différent ici. On n'abordera pas nécessairement la question des bibliothèques dans nos demandes de subvention. On peut dire que dicté par l'instinct de survie, on va utiliser la technique de la pieuvre et puis on va jeter des jets d'encre pour cacher un peu ce qu'on veut faire. Alors, la façon contournée que j'ai trouvée peut-être pour attirer les sous, c'est de travailler sur le multilinguisme qui semble être assez porteur de messages pour le gouvernement. Donc, je travaille sur l'aspect multilinguisme. En fait, ma recherche est surtout sur le traitement des images, mais comment assurer l'accès aux images en contexte de repérage multilingue. Donc, pour l'instant, ça m'a attiré au moins une subvention au niveau provincial, et puis on verra ce que ça va me rapporter, et en espérant aussi que ça intéressera aussi les bibliothèques éventuellement, parce que, en fait, ce que je fais comme recherche est assez pratique, pratico-pratique, et puis même si je touche pas directement le milieu des bibliothèques. Je crois que le fruit de mon travail pourrait être facilement adapté à ce milieu-là également. Donc, je vous lis une partie de ma présentation, de mon texte. C'est des choses qui ont été dites et redites pendant les 2 jours, mais comme on dit toujours aux étudiants, quand on répète, c'est pédagogique. Alors, ça sera aussi cet après-midi. Traditionnellement, la bibliothèque acquiert des documents sur support imprimé tels que les livres, les journaux, les cartes, les illustrations. Je ne vous apprends rien. Mais à l'heure du numérique, l'effort des bibliothèques se porte sur l'organisation et la mise en valeur d'autres types de collections. Avec l'avènement des documents à contenu numérique, on entre de plein pied en compétition avec des intervenants aussi nouveaux que différents, qui sont les sites commerciaux, les blogs et autres sites web nés des réseaux sociaux. qui offre une panoplie de contenus. Donc, si elle veut survivre, la bibliothèque doit aussi se doter d'outils nécessaires pour mettre en valeur d'autres sortes de contenus. La bibliothèque, comme vous le savez sans doute, a pour mission de fournir les ressources et les services documentaires requis pour les fins de l'enseignement, de la recherche et des activités culturelles diverses. La bibliothèque doit aussi organiser des documents pour qu'ils soient accessibles localement, mais maintenant aussi à distance, parce que c'est maintenant une réalité que les gens peuvent accéder aux documents de n'importe où. Donc, avec l'avènement du numérique, le document imprimé n'est plus au centre des préoccupations des bibliothèques. D'autres types de documents, comme les tableaux, les images, les dessins, les vidéos, même les fichiers sonores, font maintenant partie des collections privilégiées par les utilisateurs des bibliothèques. Puis, ce problème-là se complique davantage lorsque les documents combinent plusieurs types de médias de plusieurs natures même document. Le passage de la bibliothèque traditionnelle au numérique ne se caractérise pas strictement par une évolution technologique, mais nécessite un changement aussi dans le paradigme avec lequel les individus accèdent et interagissent avec l'information. La bibliothèque traditionnelle s'est longtemps consacrée sur l'entreposage et la conservation des éléments physiques, mais maintenant, c'est un peu différent. La bibliothèque numérique donne accès aux documents de n'importe où, de la voiture, de l'avion. Donc, on n'a plus à se soucier vraiment de l'aspect entreposage, mais par contre, on a d'autres problèmes qui ont surgi avec cette évolution-là qui est plus technologique. Je vais vous parler un peu du catalogue. Je sais que, bon, pour plusieurs personnes, le catalogue, c'est quelque chose qui est complètement dépassé. Et, bon, en fait, peut-être le catalogue, comme on le connaît maintenant, effectivement, c'est un outil qui fait beaucoup jaser, mais enfin, alors, il existe toujours, donc je vais vous en parler un peu. Le catalogue est définitivement le point d'entrée par excellence des bibliothèques. L'utilisateur du catalogue de bibliothèque accède à différents documents grâce à une interface de recherche offrant des options de recherche parfois simples, parfois un peu plus complexes. Cependant, quand on examine ces interfaces-là des catalogues, on voit que c'est vraiment différent d'une bibliothèque à une autre et en termes de fonctionnalités offertes. Puis trop souvent, il y a un manque flagrant de convivialité. Et puis, bon, en fait, le chercheur ne sait pas vraiment comment utiliser le catalogue. Donc, il va se tourner vers des outils qu'il connaît mieux, comme Google. Je trouve tout dans Google. J'ai de la chance. Donc, quand l'utilisateur se voit confronté à utiliser le catalogue de la bibliothèque, il se demande comment ça se fait qu'à la fin, le document n'est pas au bout de sa recherche. Il doit se déplacer souvent pour accéder aux livres. Et puis ça, c'est un concept, même pour les étudiants en bibliothéconomie, rentrer dans une bibliothèque, il faut presque les forcer au moins une fois dans la session. Donc ça, c'est une réalité triste, mais c'est ça. Une autre difficulté à laquelle l'utilisateur du catalogue de bibliothèque est aussi d'ordre linguistique. Par exemple, on a, nous au Québec, le catalogue IRIS, le catalogue de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, qui donne la possibilité de chercher soit avec des fonctionnalités de recherche en français ou en anglais. Et puis, mais par contre, les résultats sont les mêmes. Le contenu des notices bibliographiques qui vont être repérées, qu'on cherche avec l'interface en français ou en anglais, le contenu est le même, c'est du contenu français. Donc, pour les usagers qui ne sont pas familiers avec le français, c'est un problème parce qu'on ne comprendra pas nécessairement, par exemple, les vedettes matières qui sont seulement en français dans le catalogue. Donc, l'utilisateur unilingue du catalogue se heurte à une barrière assez importante. Et puis, comme maintenant, c'est tellement facile d'utiliser les catalogues d'autres bibliothèques pour accéder aux ressources, il serait peut-être temps qu'on commence à se préoccuper un peu plus de l'aspect multilingue, de l'accès à l'information. C'est étrange, à part l'intervention de Elke hier, j'ai pas entendu parler beaucoup de multilinguisme pendant les deux jours. Je suis certaine que c'est quelque chose qui est préoccupant aussi en Europe, autant que ça peut l'être chez nous, où on est entouré vraiment de beaucoup d'anglophones. On est un petit îlot francophone parmi un grand océan, que ce soit le reste du Canada ou les États-Unis. Donc, on est assez préoccupé par cette question-là. Donc, en 2001, l'UNESCO s'engageait, entre autres, à promouvoir la diversité linguistique dans l'espace numérique et encourager l'accès universel à travers des réseaux mondiaux à toutes les informations qui relèvent du domaine public. Ça, c'était il y a 10 ans, mais 10 ans plus tard, cet engagement-là demeure encore un pieux souhait. L'accès à l'information multilingue constitue toujours un défi de taille pour la plupart des usagers qui sont pas familiers avec plus d'une langue. Et puis, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'efforts qui est fait en ce moment là-dessus. C'est une réalité que sur le web, dans Internet, maintenant on a de l'information qui est dans toutes les langues, mais par contre on n'a pas tant d'outils que ça qui peuvent aider l'accès à l'information multilingue. Bon, vous allez me dire, vous avez Google qui a des outils linguistiques qui permettent de traduire sa requête, par exemple, pour pouvoir chercher parmi des documents qui seraient en d'autres langues, mais j'imagine que vous avez sans doute utilisé les outils de traduction qui sont aussi accessibles en ligne par Google, et vous avez sans doute constaté que les résultats laissent légèrement à désirer. Alors, c'est pas encore tout à fait ça. Les mécanismes de traduction automatique qui sont offerts en ligne sont pas encore totalement au point pour qu'on puisse les utiliser sans se poser des questions. Est-ce que c'est vraiment la traduction va vraiment me mener là où je veux aller? Et puis, bon, c'est pas encore totalement répandu. Et puis, à ma connaissance, des outils qui permettent de faire des requêtes en plusieurs langues dans les catalogues de bibliothèques, bon, si quelqu'un en connaît, je serais très intéressée à les voir. Donc, l'accès à l'information multilingue, c'est un problème de recherche pour lequel les solutions évidentes ne sont pas toujours mises en place. Comment la recherche universitaire peut-elle aider les bibliothèques numériques et autres à mieux faire face à ces nombreux défis engendrés par la prolifération des langues et par une diversification accrue de ces clientèles dues à l'accès universel à leurs ressources? Ouais, la réponse à cette question se trouve sans doute dans la conception et le développement, l'implantation aussi de solutions documentaires adaptées à la diversité linguistique des documents numériques accessibles en ligne. Vous avez le mouvement de CLEF, je crois que ça a été mentionné aussi hier, qui est né de mouvement de TREC, de Text Retrieval Conference, qui a donné naissance au mouvement de recherche d'informations multilingues, ce qu'on appelle le RIML, qui depuis 15 ans, étudie les problèmes liés à l'information multilingue. Il y a beaucoup de problèmes qui ont été résolus. Par contre, il y a encore beaucoup de travail à faire pour que les systèmes fonctionnent bien. Beaucoup de problèmes sont reliés justement aux outils linguistiques qui sont utilisés pour faire la recherche d'informations multilingues. Puis en fait, il n'y a pas encore de solution miracle qui a été adoptée, mais on a quand même déjà des très bonnes pistes de recherche. La RIML, en fait, ça a été longtemps aussi, s'est préoccupé surtout de documents textuels, mais aussi se préoccupe maintenant d'autres types de documents, dont les images. Comment on fait pour accéder aux images? On pense que l'image, c'est une image, elle n'a pas de texte, mais une fois que l'image est indexée, évidemment, elle devient aussi vulnérable qu'un texte de n'importe quelle nature. Donc, pour accéder à l'image, si je veux trouver des images qui ont été indexées en chinois, qu'est-ce que je fais? C'est un peu là-dessus que je vais travailler les prochaines années pendant ma carrière universitaire. Bon, j'avais aussi répertorié quelques projets de recherche que je trouvais intéressants pour, en fait, des initiatives qui ont été prises pour donner justement accès aux documents multilingues. On a entre autres The European Library, qui offre en 35 langues un accès aux collections de 48 bibliothèques nationales. Il y a aussi le projet Europeana, donc, qui a été question hier, qui propose 6 millions d'objets numériques, dont les images, des textes aussi, des fichiers sonores et des vidéos. Et puis, on a aussi eu des tentatives pour créer des outils pour l'accès sujet multilingue, comme le projet Max, dont vous avez entendu parler, en fait, un projet un outil linguistique qui serait en plusieurs langues, qui met en collaboration LCSH puis Rameau, entre autres. Pourtant, toutes ces initiatives-là, c'est encore des choses qui sont très isolées, puis quand on pense à un outil linguistique qui donne accès à des documents en plusieurs langues ou de nombreuses langues, les coûts que ça entraîne sont vraiment astronomiques. Et c'est probablement pour ça qu'on n'a pas encore autant d'outils d'accès aux documents multilingues qu'on voudrait bien avoir. Donc, on peut dire en conclusion qu'on vit une période assez fascinante dans l'histoire des services offerts par les bibliothèques. Pour la première fois, on a vraiment accès à presque tout ce qu'il y a dans l'univers, mais encore faut-il avoir les moyens et les outils pour pouvoir accéder à cette information-là. Et puis, il y a encore des enjeux qui sont engendrés par la diversité linguistique du web et aussi par la diversité des gens qui utilisent le web. Et si on ne se préoccupe pas de ça à court terme, il y a beaucoup de gens qui vont être laissés, qui vont rester isolés dans leur coin. Donc, les outils d'indexation et d'interrogation multilingue ne peuvent être créés que sous condition d'un travail de coopération entre chercheurs et bibliothèques. Beaucoup de travail reste à faire pour parvenir à briser l'isolement des individus et leur donner le plein accès à l'information, peu importe la langue. Et voilà.
Merci beaucoup. Même question que précédemment. Alors, moi, je vais me permettre quand même. Comment réussissez-vous à formuler vos demandes de financement avec de telles thématiques de recherche sans évoquer le mot bibliothèque? Il me semble que s'il y a bien il me semble que ces problématiques sont au cœur du champ de compétences des bibliothèques, organiser, structurer, donner accès à de l'information ou à des documents. On est au cœur de problématiques qui, à mon avis, doivent concerner au premier chef les bibliothécaires. Et pour des raisons que je comprends bien, un réflexe de survie, pour reprendre votre expression, le mot bibliothèque disparaît. Alors, est-ce que ça veut dire que, parce que le mot bibliothèque disparaît de la demande, est-ce que les bibliothécaires sont moins présents parce que, justement, il n'y a pas le mot bibliothèque, alors que c'est un projet qui pourrait les concerner directement?
En fait, quand on fait une demande de subvention pour un type de projet qui toucherait le multilinguisme, on a juste à remplacer le mot bibliothèque par Internet, c'est déjà mieux. Mais le problème est, je dirais, peut-être un peu plus politique. Au Canada, en ce moment, on a un gouvernement qui ne croit absolument pas à la culture. J'ai pas honte de le dire. On paye maintenant pour... vous avez sans doute vu des très beaux Jeux olympiques dans la ville de Vancouver au mois de février, alors on n'a pas fini de payer pour ça. L'argent que le gouvernement a à mettre sur la culture, et je parle pas seulement des bibliothèques, mais aussi des musées, le gouvernement en ce moment investit dans les stades des arénas de hockey, des Jeux olympiques. Alors malheureusement, l'argent n'est pas tout à fait là pour... Il faut vraiment faire attention quand on fait une demande de subvention. Puis, comme M. Arsenault disait, quand on réduit nos demandes de subvention à un milieu trop petit, comme une bibliothèque, c'est pas très vendeur. Et puis, dans un cas comme moi, j'ai pas le choix que j'ai une obligation de résultat. Je dois attirer de l'argent et je dois choisir mes mots de façon très méthodique. Voilà.
D'autres... Oui. Alors.
Le service, c'est comme les services de bibliothèque, toujours là au bon moment. Non, je voulais apporter un complément d'information à ce que Hélène disait, parce que j'en ai fait aussi des demandes de subvention avec le mot bibliothèque. Un des éléments d'évaluation des demandes de subvention, c'est l'originalité et l'impact que ça peut avoir. Alors, c'est sûr que si vous avez... Et ces demandes sont évaluées par des comités qui sont composés de professeurs de d'autres universités. Alors, c'est sûr que si dans la tête des évaluateurs, des bibliothèques sont synonymes de stabilité et de tradition, alors c'est sûr que déjà, il y a un problème de perception. Parce que c'est vrai qu'on a des Jeux olympiques, c'est vrai que le gouvernement finance peut-être moins bien la culture qu'avant, mais je veux dire, c'est une problématique qui existe depuis longtemps Et dire qu'on fait de la recherche sur les bibliothèques, c'est, ça n'a jamais été perçu comme des projets innovateurs amenant un avancement des connaissances. Mais, ceci dit, je pense qu'on n'a peut-être pas tout essayé dans la formulation de ces projets. Mais c'est sûr que dire qu'on va étudier les bibliothèques, à moins que l'on précise quel élément innovateur ça va apporter, il n'y en aura pas de subvention.
Mais, alors, est-ce qu'on n'a pas un risque là, puisqu'on pourrait considérer que l'innovation est un effet secondaire de la recherche, que n'étant pas suivi pour faire de la recherche dans le domaine des bibliothèques, on ait une capacité d'innovation qui soit peut-être moins forte et qui donc amène justement à une vision de stabilité, pour reprendre le mot. Alors, c'est un euphémisme. Est-ce que quelqu'un à la table, vous avez...
Oui, je voudrais peut-être nuancer un petit peu. C'est vrai ce que dit Hélène, c'est-à-dire que le mot bibliothèque n'est pas tellement bon vendeur, je l'ai dit ce matin. Mais en même temps, c'est possible. Moi, j'en ai fait des demandes de subvention où la bibliothèque était importante. Mais comme différence, il faut ajouter un volet qui démontre... Autrement dit, quand on fait une demande de subvention puis que le mot bibliothèque est là, il faut que notre demande de subvention soit meilleure encore. Ça ajoute une difficulté supplémentaire. Et j'ajouterais aussi, Hélène, que les premières demandes de subvention sont beaucoup plus difficiles à obtenir. Une fois qu'un chercheur installe sa crédibilité, peut-être que là, il peut davantage parler de bibliothèque dans ses projets. Peut-être.
Oui.
Mais en tout cas, c'est sûr qu'au début, c'est peut-être un peu plus difficile.
Voilà.
Ouais. Je trouve ça un peu terrible quand même que nous n'assumions pas notre condition. Bibliothécaires nous sommes, bibliothécaires nous restons. Et nous travaillons dans des bibliothèques. Et je pense que la lutte qu'il faut entreprendre, et c'est une lutte totalement intellectuelle, c'est effectivement de défendre quand même ce concept. Si on ne le fait pas, qu'est-ce qu'on aurait dit ? Les femmes, on ne peut pas parler des femmes, parce que c'est quand même embêtant, c'est les inférieurs de l'homme, donc on n'en parle pas du tout. On sait où ça nous a mené. Bon, donc je crois qu'à un moment donné, il ne faut pas avoir il faut être conscient de la chose. Je comprends, madame, que je comprends d'autant mieux, je me permets de dire une chose. Sur Sophie Antipolis, qui je pense que c'est une technopole mondialement célèbre, on est en train de construire une bibliothèque. Et alors mon interlocuteur, c'est un monsieur qu'un certain nombre de gens connaissent assez bien, c'est le recteur Blanchet, René Blanchet. Je travaille très très souvent avec lui. Et il m'a dit, bibliothèque, ouais, c'est pas terrible, etc. Mais on a des relations amicales, hein. Bon, il dit, c'est quand même pas terrible, est-ce qu'on peut mettre bibliothèque? Je dis, ok, on va pas mettre bibliothèque, on va mettre centre de ressources en information scientifique et technique. Ça faisait Christ. Et alors, on a eu cette discussion-là. Et puis, dans le fond, on est resté sur le Christ, en croix. Et puis, on a quand même gardé bibliothèque. Et je crois que là, je ne peux qu'enjoindre l'ensemble de mes collègues à dire, ben, quand même, résistez un tout petit peu, hein, soyez courageux. Voilà. Et soyez courageux et ayez des stratégies de contournement en même temps. Mais ne cédons pas sur l'essentiel. Monsieur Varlot avait écrit d'assez belles choses sur les bibliothèques. Bon, je suis peut-être un vieux con, mais j'en resterai là. Hein. Voilà, parce qu'il a été cité, cher monsieur Varlot. Hein. Voilà.
Sur cette intervention, je propose de passer la parole à notre intervenante suivante, Madame Louise Guillemette Laborie, qui est directrice associée des bibliothèques de la ville de Montréal.
Je suis parfaitement d'accord avec vous. Peut-être que je suis une vieille conne aussi, mais écoutez, des subventions... Des subventions, j'en ai obtenu depuis 32 ans que je suis bibliothécaire à temps complet. Et chaque année, j'en ai obtenu, et c'est en parlant des bibliothèques que je les ai obtenues. C'est vrai que je m'adressais à une autre clientèle. Alors, voilà, c'est peut-être ça. Mais c'est aussi que la bibliothèque en tant que telle n'a aucune résonance si elle ne sert pas une cause. Et c'est surtout, c'est un véhicule pour servir une cause. Et ce qu'il faut mettre de l'avant, c'est de quelle façon on va mener le véhicule. Bon, ceci dit, combien d'entre vous sont abonnés à une bibliothèque municipale? Wow! Je suis assez contente. Bravo! J'espère que vous la fréquentez aussi, que vous ne faites pas que bénéficier de la petite carte qui a différents usages. Je vous invite à aller sur le site des bibliothèques de Montréal. On a un petit vidéoclip totalement hilarant qui explique les divers usages d'une carte de bibliothèque. Alors, c'est à découvrir. Donc, effectivement, le projet de recherche comme espace de dialogue, je dis oui, absolument. On en a vraiment besoin. Pour moi qui suis une femme de terrain, écoutez, en 32 ans, je n'ai fait qu'un article. Mais des tonnes de documents, mais seulement qu'un article qui s'intitulait « Le pouvoir, en avons-nous et en voulons-nous? » Parce que la question aussi se pose, et se posait et se pose toujours, de mon point de vue. Alors, projet de recherche pour initier le dialogue, que vous soyez membre déjà d'une bibliothèque, c'est l'amorce du dialogue. Donc, vous pouvez très bien vous rendre compte de ce que la bibliothèque fait bien, de ce qu'elle fait pas bien, de ce qu'il faut améliorer, de ce qu'il faut renforcer, de ce qu'il faut retirer. Vous êtes à même de vivre la situation. Je vais vous citer un article qui a paru dans Rue Frontenac, qui est un journal qui a été créé à cause d'un lockout. Est-ce qu'on connaît en France, vous connaissez les grèves, mais le lockout, vous connaissez aussi. Alors, le Journal de Montréal, qui est en lockout depuis plus qu'un an, presque et demi, les journalistes ont créé un journal parallèle sur Internet qui est offert gratuitement et qui fait des bons papiers. D'ailleurs, mieux que lorsque c'était le Journal de Montréal. Alors, Paul Gérin-Lajoie, qui est le fondateur de l'éducation publique moderne au Québec, disait cette semaine que l'école échoue à garder ses élèves simplement parce qu'elle ne s'intéresse pas à eux, à ce qu'ils sont réellement, à leurs besoins, trop occupés à se transformer sans cesse. Eh bien, je pense que M. Gérin-Lajoie a tout à fait raison, et ce qu'il disait, et qui s'applique fort bien à l'éducation au Québec, peut très bien s'appliquer à l'ensemble de notre profession. On est vraiment happé par tous les changements, et il y a ceux qui résistent et ceux qui ont une certaine résilience et qui vont surfer sur le changement, mais il faut jamais perdre de vue le citoyen qui est mon client à moi et qui doit être le client des bibliothécaires. Je suis chez moi, à la ville de Montréal, la technule, ou si vous préférez, la technouille de service. Et je le revendique parce que je veux être celle qui va dire à mes experts que j'adore. Et je les ai embauchés pour qu'ils soient les experts. J'ai embauché des jeunes hackers, presque, parce que je veux qu'ils nous montrent le chemin à suivre. Mais moi, je revendique le statut de technule pour faire en sorte que le citoyen soit dans le train du changement et qu'on ne le fasse pas en dehors de lui. Alors, oui, la recherche, j'y reviens. Il y a Mintzberg, je pense, qui parlant de la communication, disait que l'échec ou la réussite d'une communication dépendait de l'émetteur du message. Je pense qu'il a raison aussi. Il faut que, en tant qu'émetteur d'un message, les bibliothèques puissent bien le contrôler, faire en sorte qu'il fasse, il atteigne la cible. Et pour ça, ben, il faut être à l'écoute de celui à qui on va destiner le message. Et ça reprend un petit peu de ce que M. Gérin-Lajoie nous disait un peu plus tôt. Fidèle à mes habitudes, comme j'écris pas souvent, j'ai pris des petites notes, j'ai pas de beaux textes comme mes collègues. Je suis dans l'action. Mais je crois beaucoup à ce partenariat entre les universités, les écoles de bibliothéconomie et le milieu terre à terre, comme on le disait, le terrain, la pratique professionnelle. Et c'est un partenariat où tout le monde est gagnant. Hein, les deux partenaires sont gagnants et où on va apprendre beaucoup l'un de l'autre. En autant qu'on est ouvert à l'apprentissage et non pas simplement un émetteur d'un message qui se fout un peu de celui qui va le recevoir. Alors ça, c'est pour moi très important. Et j'y crois tellement qu'il y a peut-être 2 ans, j'avais rencontré Jean-Michel Salon pour parler de je ne sais plus quoi, lors d'un déjeuner où on avait goûté un excellent vin. Et l'idée nous était venue de dire, mais pourquoi on n'aurait pas un centre de recherche bibliothèque et ville? Alors, tu en as parlé, Jean, tout à l'heure. Et les bonnes idées naissent souvent dans le plaisir. Et ça, il faut pas l'oublier, puis il faut pas bouder son plaisir. Et je l'écoutais tout à l'heure là, Madame Ménard, puis je me disais, ah, il manque du plaisir dans tout ça. Pourquoi les bibliothèques réussissent? C'est parce que nous devons satisfaire une clientèle. Il faut qu'il y ait une expérience plaisante avec la bibliothèque publique. Et je pense que vous pourriez peut-être, les universités, en tirer profit quand vous initiez les étudiants à la recherche, etc. Il ne faut pas oublier la notion de plaisir. Eux ne l'oublieront pas sûrement. Donc, l'idée est venue parce que j'étais un peu frustrée de voir mes collègues, par exemple, mon collègue qui était responsable du bureau du Mont-Royal, vous savez, la belle montagne au cœur de Montréal, il avait des budgets pour la recherche qui me hérissaient. J'étais contente. Par exemple, il y a une herbe qu'on appelle le nerprun, qui est une herbe qui dévaste toutes les autres. C'est vraiment un fléau, cette herbe-là. Elle est en train de faire disparaître toutes les espèces végétales sur le Mont-Royal. Alors, lui avait demandé un budget de recherche pour ça et avec son budget de recherche a démontré la chose et en démontrant la chose, il a obtenu un budget pour vraiment se débarrasser de ce fléau et par la suite refaire une transplantation et en y passant, on va ajouter quelques éléments. Bon, pourquoi lui pouvait obtenir de l'argent aussi facilement, parce que c'était extrêmement facile, et nous, pour s'occuper d'interculturalisme, d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal, pas beaucoup d'argent, pas beaucoup d'intérêt. Alors, parce qu'il nous manque l'élément, c'est-à-dire qu'il y a de l'intérêt, mais il n'y a rien qui vient appuyer nos prétentions, nos hypothèses. Et on a besoin d'avoir des chercheurs qui vont se pencher sur ces problématiques. Alors, c'est là que l'idée est venue. Ensuite, on a rencontré, bon, les gens de l'Université de Montréal, Monsieur Boisvenu, qui est doyen. Oui. Parce que la hiérarchie universitaire, je suis très peu connaissante de la chose. Donc, qui a eu une oreille très, très attentive et qui était très enthousiaste aussi au départ. Après, bon, on est allé voir France et France a dit oui tout de suite. Ah, quelle belle nouvelle. On est allé voir Guy Bertium à la Bibliothèque et Archives nationales. Et j'en ai parlé avec les gens de la troisième université Concordia. Ils sont prêts aussi à collaborer. Il nous reste que la dernière, l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, qui va certainement dire oui. Et quand le moment sera venu, qu'on aura des projets concrets qui pourront bénéficier d'argent, ben on sera prêts, tout le monde, et on va travailler ensemble. Et c'est extrêmement important. Je crois beaucoup à la contamination, au fait que les uns les autres, on va travailler ensemble avec nos réseaux. Hein, on a chacun nos propres réseaux et en unifiant nos réseaux, en les centrant sur un objectif commun, on bâtit quelque chose. Alors voilà une des idées qui illustre l'importance de travailler ensemble, d'être en communication les uns avec les autres. Et ça, j'ai la chance d'avoir des collègues fantastiques. Et puis Clément prend la relève et j'en suis fort aise. Donc, il est donc de plus en plus important pour nous de disposer de recherches pour appuyer nos prétentions, valider des hypothèses et aussi orienter notre développement. Quand on obtient un financement pour construire, par exemple, la bibliothèque lieu physique à Montréal, on va avoir 180 millions là d'ici 2017 pour bâtir des bibliothèques, mettre les autres à niveau. Ben, on faut pas qu'on fasse n'importe quoi. C'est l'argent des contribuables, c'est l'argent des citoyens. Il faut qu'il soit bien dépensé, il faut qu'il soit dépensé de façon structurante pour que cet investissement-là génère d'autres investissements. Donc, pour ça, on a besoin d'orienter nos développements et c'est la recherche qui va nous aider à orienter. Bien sûr, l'écoute de notre clientèle, l'observation, la veille de ce qui se passe dans notre environnement est très important, mais la recherche est très importante, elle est fondamentale. Et ça nous oblige, nous aussi, professionnels en pratique, à bien préciser nos besoins. Parce que souvent, ce que je réalise, c'est que on ne nomme pas comme il faut nos besoins, on ne les précise pas. C'est comme aller chez le médecin puis dire « j'ai mal au ventre ». Oui, mais encore. Alors, j'ai mal au ventre quand j'ai trop mangé. Bon, il faut négocier la question. Alors, il faut la même chose que nous précisions nos besoins pour qu'on puisse y répondre quelque part. Je crois beaucoup aussi à la multidisciplinarité des recherches et de leurs applications. On ne peut pas, en tant que bibliothécaire, avoir des réponses à tout. Même si il y a une belle expression en anglais qui dit « Jack of all trades ». Mais vient ensuite Master of None. Alors si on fait un petit peu de tout, un butine à la surface des choses, on ne réussit pas tout ce que nous entreprenons. Donc il nous faut des partenaires qui eux aussi ont leur spécialisation et qui vont complémenter ce que nous faisons en tant que bibliothécaires. Alors, j'avais deux petites pages, ce format. Je passe à la deuxième. Alors, je disais qu'on a besoin des recherches aussi pour étayer nos programmes, nos activités, nos services, nos opérations. Alors, moi, j'ai la chance d'être unique au Québec de ne pas être dans les opérations. Hein? La Direction associée des bibliothèques à Montréal ne gère aucune bibliothèque. Elle gère le réseau. Alors, nous faisons la planification du développement, nous faisons aussi un peu d'opération, notre système informatique de gestion, nous coordonnons quelques programmes, mais l'opération de tous les jours, ce qui fait qu'on n'a pas le temps d'écrire, qu'on n'a pas beaucoup le temps de réfléchir, d'avoir du recul, ben nous, on le fait pour les 43 bibliothèques actuelles du réseau. Et ce faisant, ben, on fait beaucoup de veille, d'observation, on est en lien avec des chercheurs, on fait des recherches, mais il faut aller plus loin et c'est là qu'on peut compter sur les universités pour nous aider à développer des programmes, nous aider à faire des activités, à penser à de nouveaux services et à opérationnaliser tout ça. Tout ça, là, doit être en lien avec des grands enjeux sociétaux. Je le disais d'entrée de jeu, si nous sommes désincarnés, on n'ira pas chercher de subventions. Qu'on soit une bibliothèque ou un hôpital, on n'intéressera pas personne si on n'est pas branché sur des grands enjeux. Ils sont quoi, les grands enjeux? Il y a des sondages qui nous le disent à tous les jours, à toutes les semaines. La santé, l'éducation, l'intégration sociale, la lutte à la pauvreté, voilà. Et ce qui est intéressant dans le cas des bibliothèques, c'est qu'on a une contribution à faire dans tout ça. Même des enjeux qui parfois non, ça là, je vois pas ce que je pourrais faire, on va le trouver. Ça existe. Et c'est ça qui est merveilleux avec notre profession. On n'a pas le leadership dans tout ça, mais on a une contribution à faire partout. Et il faut, comme vous dites en France, mettre notre fraise. C'est ça, hein? Pardon? Oui, amener sa fraise. Ouais, voilà. Alors, c'est ce qu'il faut faire. tout à l'heure, on parlait, j'aimais bien, l'idée de l'économie politique de la profession. Ça, c'est une chose dont on aurait besoin à tous les jours. Parce que je disais tout à l'heure, on affirme beaucoup de choses, on avance des hypothèses, mais quand on peut la documenter, quand on peut ajouter des chiffres, par exemple, Statistique Canada à une autre époque, avant l'élection de M. Harper, Statistique Canada faisait des analyses absolument extraordinaires. Dont une dont je vous recommande la lecture, même si c'est un gros pavé et c'est des chiffres, c'est quand même tellement riche. Et on faisait l'économie politique de la littératie, notamment sur la santé. Par exemple, sur le décrochage scolaire. On a identifié que chaque décrocheur scolaire au Québec coûte 120 000 $ à l'État. Alors, quand c'est 30 % des jeunes qui quittent l'école avant la fin du secondaire, on se dit, ça commence à coûter très cher. Il faut faire quelque chose. Alors, ça, ce genre d'analyse-là, il faut le faire. On peut le faire en partenariat avec des gens comme Statistique Canada, mais on doit aussi mettre notre grain de sel dans cette analyse-là. Alors, on compte sur vous aussi pour une chose bien importante, l'action citoyenne. Puis là, Régent a été un... Puis là, j'aimerais mieux qu'il ne soit pas là, là. C'est toujours un peu gênant de se faire louanger en public, mais Régent a souvent écrit dans les journaux, dans le courrier des lecteurs, pour dénoncer des décisions municipales, gouvernementales, qui faisaient du tort, qui nuisaient aux bibliothèques. Sa prise de position citoyenne, mais comme professeur à l'EPSI, c'est très important. On est souvent muet sur la scène publique. Je ne sais pas pourquoi, mais on est souvent muet. Et vous, comme chercheur, je pense que c'est très important que vous puissiez, vous avez beau ressasser ici vos petits problèmes, mais sur la place publique, vous avez quand même, comme professeur d'université, un statut important, surtout en France. Au Québec, on se méfie un peu des intellectuels, mais en France, on aime les intellectuels, mais il faut profiter de cet amour-là pour se faire l'écho de situations avec lesquels on n'est pas d'accord. Alors, il faut s'exprimer. On ne le fait pas suffisamment et bravo à ceux qui le font et j'invite tous les autres à le faire. Participer à des séances publiques. Nous, on a quelque chose de bien à la Ville de Montréal. C'est, on en fait beaucoup, des séances de consultation publique. C'est pour ça que les projets tardent à démarrer. Mais ça prend plus de temps, mais quand ça démarre, c'est plus fort, puis les projets sont bons. Et cette année, on a eu, vraiment, on a fait salle comble à la salle du conseil municipal. Ils n'avaient jamais vu ça. Une séance de la commission permanente du conseil sur la culture et les bibliothèques où on parlait de la bibliothèque numérique virtuelle. Donc, le deuxième lieu de notre bibliothèque, lieu physique, lieu virtuel. Et après ça, on parlera de hors les murs. Alors, là-dessus, alors, salle comble. Jamais, écoutez, on a un budget de 5 milliards de dollars. Il y avait un pelé et trois tondus. Et on fait une session sur la bibliothèque virtuelle, salle comble. Alors, il y a un conseiller municipal qui me dit, comment vous faites pour attirer autant de monde? Écoutez, c'est une question de survie, mais on utilise les outils, les réseaux sociaux. Le sujet est intéressant, ça passionnait les jeunes. Et, bon, un petit peu de sens de l'organisation. Et voilà, le tour est joué, mais la participation de nos collègues du milieu universitaire. On doit s'appuyer les uns les autres. Je serai présente quand on aura besoin de moi pour ça. Alors, j'achève ce truc très, très décousu, mais... Ah, ma chute! Alors, Montréal, métropole culturelle de création, d'innovation et de savoir. Quand j'ai dit qu'il faut s'accrocher à des grands enjeux, en 2002, quand on a créé le Nouveau Montréal, on a fait un sommet. Hein, on a consulté l'ensemble de la population montréalaise et ce sont les citoyens qui ont dit aux nouveaux élus du Nouveau Montréal, voici ce que nous voulons que Montréal devienne. Donc, en 2025, c'était l'objectif, il faut que Montréal soit reconnu comme une métropole de création, d'innovation et de savoir. C'est nous, ça. C'est les bibliothèques. C'est notre fonds de commerce. C'est création, innovation, savoir. Donc, nous avons pu être priorisés parce qu'on s'est accroché à ce branding de Montréal. Et on le fait valoir constamment, et c'est comme ça qu'on demeure une priorité, malgré tous les soubresauts politiques et économiques que nous pouvons vivre. Mais ce qui fait notre force, c'est pas seulement de s'accrocher aux grands enjeux fondamentaux et au branding de la ville, c'est que nous sommes, grâce à vous, une profession apprenante et non pas, et moi je travaille pour une ville apprenante, je suis au service du développement d'une ville apprenante et je peux le faire parce que je fais partie d'une profession apprenante. Alors, sans tomber dans les travers du changement qui fait qu'on oublie les besoins de notre clientèle, il faut quand même bien équilibrer les choses et faire en sorte que nous utilisions les outils que nous mettons à la disposition de notre clientèle. Voilà. Et je réagirai plus tard à tout ce qui a été dit. J'ai pris des petites notes pour ça.
Merci. Alors, je retiens déjà que la création d'un espace de dialogue passe par un bon repas et un excellent vin. Donc, c'est déjà, je pense, quelque chose qu'on peut mettre en œuvre de façon assez facile et agréable. Est-ce qu'il y a des questions ou des réactions?
J'espère que ce bout-là va tomber au montage.
Moi, j'avais une réflexion. J'ai l'impression que, alors c'est peut-être pas le cas pour votre institution spécifiquement, mais qu'il y a une forme de, c'est revenu à plusieurs reprises, le fait de valoriser la bibliothèque par la recherche. Le fait d'impliquer la bibliothèque dans des activités, des travaux de recherche, la valorise auprès de ses financeurs, etc. Et j'ai l'impression que cet aspect-là, c'est quelque chose par rapport auquel il y a une forme de pédagogie à mettre en œuvre pour que les professionnels, déjà de leur part, se disent oui, faire de la recherche, alors on y reviendra peut-être avec la dernière intervention, faire de la recherche pour mon établissement, ça valorise mon établissement. Et c'est une forme de, ça équilibre un peu le deal entre le fait que la bibliothèque participe, apporte des données. Oui, oui, bien sûr, bien sûr.
Pour moi, c'est absolument, c'est très, très, très important. Parce que Je disais tout à l'heure qu'on n'est pas assez sonore, on n'est pas assez visible. On avait, les bibliothèques de Montréal organisaient récemment un forum qui s'inscrivait dans le congrès du milieu documentaire. Et ça, c'est un aspect qui est ressorti, qu'on voulait beaucoup faire ressortir. On n'est pas assez visible. Et c'était François Colbert, peut-être que certains d'entre vous connaissent, qui est aux hautes études commerciales à Montréal et qui est directeur de la chaire de la gestion culturelle. Et qui est un homme remarquable et qui disait, mais vous êtes extraordinaire, les bibliothèques, mais comment ça se fait qu'on vous voit pas, on vous entend pas, vous êtes pas assez présent? Puis c'est vrai. Tout à l'heure, monsieur qui parlait de la rapidité à bien répondre de la bonne façon à notre patron. Quand il y a un événement qui se passe dans la ville, il faut que j'ai quelqu'un, parce que moi, je suis toujours en réunion ou toujours en train de parler, mais il faut qu'il y ait des gens qui travaillent chez moi et qui me préparent une note, un one-pager, une page bien tassée, dans un langage clair, simple à comprendre, que les élus vont pouvoir lire d'une seule fois et avoir tout compris et ensuite porter avec eux. C'est des opportunités qu'on a à chaque fois de faire valoir ce que nous sommes, ce que nous pouvons faire, mais il faut le faire comme il faut. Et souvent, les étudiants qui commencent sont absolument incapables de faire cette petite page-là. Alors, ça prend un traducteur pendant quelques mois, des fois des années. Alors, si vous pouviez nous les formater là pour pouvoir faire ça, ça serait formidable. Mais je reviens à ce que vous disiez. Quand on se lie à des grands enjeux, j'ai parlé lundi aux bibliothèques publiques sur la maturité scolaire. À Montréal, il y a eu une étude qui démontrait que 35 % c'est beaucoup là, 35 % des petits Montréalais de 0 à 5 ans, de 4 ans, 5 ans, qui commençaient à la maternelle, commençaient avec au moins une vulnérabilité sur 5 indicateurs. Langagier cognitif, l'affectif, le social, bon, je ne vous les nomme pas tous, mais 1 sur 5, c'est énorme. Parce que, bon, on est une ville d'immigration, il y a beaucoup d'immigration, puis il y a la moitié de la population qui déménage à tous les 5 ans à Montréal. Donc, c'est de la mobilité. Et bon, alors, la maturité scolaire, il y a un beau groupe qui se crée tout de suite après la sortie de cette étude. Ils n'ont pas pensé à demander à quelqu'un des bibliothèques de contribuer. Et on sait à quel point que pour développer le moteur, pour développer l'affectif, pour développer le langagier, le cognitif, on est là. On a un rôle très important à faire avec les tout-petits puis avec leurs parents. Alors, je me suis pratiquement installée de force au sein de ce groupe-là, mais ça a été très rapide. Ben oui, pourquoi on n'a pas demandé aux bibliothèques? Alors, il faut qu'on soit présent, il faut qu'on s'invite quand on ne nous invite pas. Parce que c'est un enjeu fondamental et quand on sait qu'on peut apporter une contribution très importante, il ne faut pas se gêner pour s'inviter.
Merci. S'il n'y a pas d'autres réactions, je vais céder la parole à la dernière intervention de la table ronde. Madame Hélène Richard, conservateur des bibliothèques et inspecteur des bibliothèques. Merci.
Je vais tâcher de ne pas redire ce qui a déjà été dit, qui par ma voisine à sa manière, qui par des interventions précédentes, et tenter de faire plutôt quelques remarques qui vont être rapides sur la place de la recherche dans les bibliothèques, mais dans le cadre des bibliothèques françaises, et à elle seule, je vous prie de m'en excuser. Tout d'abord, je voudrais dire un mot sur les objets de la recherche dans les bibliothèques. Je crois que il est important de se rendre compte que la bibliothèque, je simplifie en disant la bibliothèque, mais dans les bibliothèques, on peut étudier des quantités de choses et faire de la recherche sur des quantités de sujets. À la fois la communauté et l'institution dans laquelle se trouve la bibliothèque, la place de la bibliothèque dans son institution, la sociologie de la communauté, comment la bibliothèque y répond ou n'y répond pas, l'offre ensuite, les collections, les documents, qu'il s'agisse de collections physiques, de collections numériques, de collections à venir, enfin de l'accès, l'expertise documentaire, tout ça ce sont des sujets qui chacun entre eux sont vraiment des sujets d'étude. Et puis, les usages de la bibliothèque, les résultats dans la structure, hors de la structure, dans d'autres structures. Enfin, on peut décliner toutes sortes de choses et faire des projets de recherche dans lesquels, je pense, le mot bibliothèque peut ne pas apparaître, même si on ne parle que de cela. Donc, les objets de la bibliothèque sont extrêmement nombreux à pouvoir faire de l'objet d'études et d'études de toutes sortes, historiques, politiques, philosophiques, juridiques, cognitives, et j'en passe et de meilleurs, et bien sûr des sciences de l'information. Donc, le champ est extrêmement vaste. Et dans ce champ très vaste de la bibliothèque, quelle place ont les bibliothécaires dans la recherche ? C'était ce que j'ai les quelques mots que j'aimerais dire. Donc la bibliothèque peut être l'objet de recherches menées de l'extérieur. La bibliothèque est, j'allais utiliser un terme qui avait été utilisé au moment de travaux d'ethnologues sur un petit village du nord de la Bourgogne, on disait que les chercheurs s'étaient abattus sur ce village comme la pauvreté sur le monde, c'est-à-dire en fait on s'introduit dans la bibliothèque, on en étudie un aspect, mais à la limite la bibliothèque le subit sans se sentir partenaire. C'est pas forcément le cas idéal pour résumer. Par contre, les bibliothécaires peuvent être eux-mêmes dans la recherche. Soit ils mènent la recherche eux-mêmes, la bibliothèque a-t-elle des équipes ? Dans quel but mène-t-elle cette recherche ? On peut penser au Centre des études et recherches de la Bibliothèque publique d'information qui se fait passer des commandes par le ministère de la Culture pour tel ou tel point examiné dans cette bibliothèque ou dans une autre. Mais il y a d'autres positions que peuvent avoir les bibliothécaires dans cette recherche. Et ces positions me semblent intéressantes. C'est-à-dire qu'ils peuvent jouer un rôle pour encadrer des chercheurs. On pense, là il y en a pas mal à la Bibliothèque nationale de France, il y en a d'autres institutions. On trouve au sein de la bibliothèque des chercheurs associés ou des chargés de recherche qui vont étudier une problématique au sein de la bibliothèque. C'est dans la bibliothèque qu'ils vont avoir leurs outils et donc ils vont avoir profité en fait de l'environnement de la bibliothèque, à la fois pour leurs sources mais aussi pour les compétences spécifiques en matière de recherche que peuvent avoir les gens qui sont déjà en place. Et il me semble que cet élément est extrêmement fructueux parce que les bibliothécaires ont leur position, ils sont à leur place, le chercheur a toute liberté de travail et la collaboration qui se fait dans cette construction de tous les jours, peut-être dans les verres de vin qui vont être pris à l'occasion de soirées agréables, vont multiplier les occasions de discussion et d'échange et à mon avis, d'amélioration réciproque. Donc là, le bibliothécaire joue un rôle, il n'est pas chercheur lui-même, mais quelqu'un qui participe de cette manière à l'encadrement d'une recherche ne peut pas être considéré comme extérieur à la problématique de la recherche. Je voudrais dire aussi que les bibliothécaires, ils peuvent avoir d'autres places dans la recherche. Les bibliothécaires sont des personnels scientifiques, les conservateurs de bibliothèques sont des personnels scientifiques des bibliothèques. Donc, qu'est-ce qu'il y a de scientifique dans la fonction des bibliothécaires ? D'une part, je crois qu'il ne faut pas l'oublier, les bibliothécaires constituent des collections, qu'il s'agisse de collections papier, de collections numériques, ou simplement de fournitures d'accès à ce qui permet l'élaboration d'une recherche. Donc là, il y a une position de recherche, d'aide à la recherche, de qui est tout à fait importante et qui ne peut pas être exercée s'il n'y a pas une connaissance de ce que c'est que la recherche. Il est impossible de constituer des collections si on n'a pas la moindre idée de ce dont il s'agit. Ou bien c'est la constitution de documents pour la recherche à venir, c'est plus le cas des collections qui deviendront, qui seront étudiées dans le cadre de collections patrimoniales. Là, c'est une fonction qui se développe, en particulier dans un certain nombre de bibliothèques d'université, où les bibliothèques d'université prennent une place dans le suivi du patrimoine de l'université. Patrimoine non pas forcément immobilier, mais le patrimoine lié à la recherche scientifique qui s'y est développé. Mais donc les conservateurs de bibliothèques sont des personnels scientifiques. Et là, ce qui me semble extrêmement important, c'est de savoir comment on va mesurer, évaluer cette position scientifique. Soit on considère qu'on l'évalue au même titre que les enseignants-chercheurs, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils publient, il faut qu'ils produisent de la recherche dans des revues qui ont des comités de lecture et une classification, mais est-ce vraiment ça la place du bibliothécaire et du rôle scientifique du bibliothécaire? En a-t-il le temps? Une de nos collègues de la bibliothèque de Reims dit, bien qu'elle ait une formation de chercheur avérée, qu'elle fait des petites opérations de recherche simplement pour s'entretenir les neurones, parce qu'elle n'en a pas le temps, sur des points de détail. Est-ce que c'est ça la fonction scientifique du bibliothécaire uniquement? Comment cette recherche peut-elle se financer? Peut-elle être financée? On voit bien dans les discussions que le problème de l'attribution de crédit pour une recherche est un élément d'évaluation, de valorisation de la recherche. Alors, est-ce que c'est comme ça qu'il faut l'évaluer? Mais alors, auprès de qui y a-t-il des financements possibles? Dans le cas de la France, on connaît les programmes de recherche sur les bibliothèques, soit du ministère de la Culture, soit d'autres. Les archivistes qui ont dans leur fiche d'évaluation des éléments sur leur activité scientifique trouvent que cet élément d'évaluation, qui est pourtant clairement signalé, ne figure qu'à une place très loin dans leurs critères d'évaluation. Ce qu'on va surtout leur demander, c'est de gérer correctement leur service, de faire en sorte que ça marche et que ça satisfasse la communauté à laquelle ils s'adressent, administration, chercheurs et autres. Donc cet élément, je crois que cet élément d'évaluation est fondamental. C'est l'un de mes soucis. Effectivement, que veut-on évaluer dans la place scientifique des bibliothécaires? Ils n'ont pas beaucoup de temps pour faire de la recherche et ils ont peut-être une place un petit peu différente à avoir dans la recherche. Et je m'inscrirai dans la continuité de ce qu'a dit ma voisine, de façon moins drôle peut-être, parce que c'est moins drôle ce que j'ai à dire, mais c'est que la recherche dans le cadre des bibliothèques, elle est forcément l'objet d'une collaboration. Il faut absolument que des chercheurs, des bibliothécaires se trouvent ensemble pour identifier à la fois les objets de la recherche, bien les définir. Qui mieux que les bibliothécaires connaît, par exemple, la structuration des collections, pour parler des collections? Qui mieux que lui connaît la logique sur laquelle le repose, par exemple, comment ont été construits certains accès, comment on a construit une offre documentaire, pourquoi on va desservir certains quartiers et pas d'autres, quel est l'enjeu, dans quelle problématique politique s'inscrit tous ces éléments. Et le bibliothécaire a assurément à participer à la définition de la recherche qui va se développer. Alors, j'en ai cité certains, mais il y a aussi bien les problèmes de web sémantique dont on a parlé hier, le problème de conservation des données numériques. Tout ça, le bibliothécaire a son mot à dire parce qu'il sait ce qu'il veut obtenir et à ce moment-là, comment on a constitué le matériau d'origine. Donc, dans ces collaborations, il faut que le bibliothécaire ait sa place, toute sa place, mais rien que sa place, c'est-à-dire une collaboration, et là, je pense qu'on est d'accord, moi j'espère. Une bonne collaboration, c'est celle où chacun est content de son sort, trouve sa place, a l'impression qu'il est écouté pour ce qu'il est et pas à l'aune de ce qu'il n'est pas et de ce qu'il est moins bien que son voisin. Et donc à mon avis très important que dans le cadre des bibliothèques, les bibliothécaires aient bien conscience de leur valeur scientifique, mais une valeur scientifique qui n'est pas forcément évaluable de la même manière que celle des d'autres professions. Alors, justement, dans ce cadre-là, je trouve qu'il serait intéressant d'analyser les causes de rupture dans les parcours de recherche des conservateurs de bibliothèques. On en a parlé déjà. Certains ont une thèse avant d'arriver en France, avant d'arriver dans cette belle école. D'autres ne l'ont pas et sont encouragés à la faire. Mais finalement, il y a souvent une rupture. Soit il y a un changement de sujet, soit il y a quelque chose qui n'aboutit pas. Et là, il y a sûrement des raisons. Et je pense qu'il serait intéressant de voir quelles sont ces causes de rupture, indépendamment de celles, je parlais de rupture, indépendamment de celles que l'on peut deviner, mais qui sont sans doute fausses. En conclusion, je voudrais insister sur la nécessité de la transmission, c'est-à-dire que les recherches qui se font dans des quantités de sujets, sciences de l'information ou d'autres, doivent irriguer la bibliothèque. On valide, on valide pas les applications, mais il faut forcément la connaître et pouvoir l'utiliser. Donc or là, il y a assurément un hiatus, et ce serait intéressant de le regarder mieux. Alors par exemple, voir s'il y a une plus grande efficience pour les bibliothèques qui sont engagées dans des projets de recherche ou pas. Quelles conséquences ça a sur la progression de la bibliothèque dans tel ou tel domaine? Est-on efficace en termes de formation des formateurs, de formation continue? Là, il y a un champ considérable d'amélioration, je pense, pour une formation continue régulière. La profession apprenante, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on doit avoir à l'esprit. Et comment les formateurs sont aussi des apprenants permanents qui sont au contact des programmes de recherche et permettent qu'il y ait une transmission meilleure de ces éléments. Voilà, j'espère que j'ai pas trop rappelé ce que mes prédécesseurs ont dit, ou dit le contraire.